Alors on va prendre 2 Corinthiens et on va lire la suite du chapitre 1 que nous avions commencé dimanche dernier. Donc on va lire 2 Corinthiens chapitre 1 versets 12 à 24. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non, aussi vrai que Dieu est fidèle? La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. On va s'incliner courtement encore dans la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole, pour cette lettre que tu nous as laissée. Seigneur, que tu veuilles encore nous bénir, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi et chaque jour, Seigneur, nous venons à tes pieds, nous te demandons grâce, secours-nous, Seigneur, viens-moi en aide. Seigneur, que tu sois glorifié, que nous puissions y trouver un encouragement, une édification. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'apôtre Paul à écrire tout ce passage? Pour comprendre, il faut essayer de voir un petit peu une vue du contexte de ce passage. Alors, on ne va pas faire une étude détaillée sur le nombre de lettres que Paul a écrites aux Corinthiens. Pourquoi ? Parce que quand on étudie ces 2 lettres que nous avons, il semble qu'il y ait eu une première lettre avant la première épître que nous avons. Et puis aussi, peut-être, il y aurait eu une deuxième lettre que nous n'aurions pas, qui serait entre la première épître et la deuxième épître. Donc, en tout, ça ferait 4 lettres. Donc, il n'y a pas une certitude absolue, mais quand même, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là. Et donc, on va laisser pour le moment ce côté, ce sujet, ce débat, et se contenter de nos 2 lettres que nous avons ici. Et donc, de celle-ci, de la deuxième. Et dans notre passage, on voit que Paul est en train de se justifier d'une chose qu'il n'aurait pas faite, puisqu'il en fait part au verset 16, il dit: je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Et puis au verset 17, il dit: est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non? Et on comprend que Paul est en train de se défendre sur le fait qu'il avait promis qu'il passerait visiter les Corinthiens, et que finalement il n'avait pas fait. Et donc, c'était ça qui était soulevé. Si on regarde la première épître aux Corinthiens, le dernier chapitre, chapitre 16, et on regarde les versets 5 à 6, nous lisons: « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. » Mais finalement, Paul n'a pas pu se rendre, comme il l'avait dit à Corinthe. Il n'a pas tenu sa parole. Alors, il y avait quelques personnes qui remettaient en question l'autorité de l'apôtre, qui attaquaient le ministère de Paul, qui ont dit, mais regardez un peu, hein, l'apôtre Paul, il avait dit que, et puis il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Ils avaient trouvé un argument de choix ici, ils se sont mis à l'attaquer avec virulence, en disant, mais en fait, il n'est pas très sérieux, il n'est pas très constant, l'apôtre Paul. Peut-être qu'ils allaient jusqu'à dire, mais il a menti. Il n'est pas de cœur avec vous, hein. Il dit quelque chose, mais il ne le fait pas. Peut-être qu'il ne vous aime pas. Tout était possible, et donc Paul va s'expliquer et se défendre sur le fait qu'il n'était effectivement pas venu visiter les Corinthiens, comme il l'avait dit. Alors j'ai donné pour titre à ce message « Irréprochable et indulgent ». Et c'est ce qu'on va voir, parce que c'est ce que nous devrions être et faire les uns vis-à-vis des autres, être des chrétiens irréprochables, mais indulgents vis-à-vis des autres, c'est-à-dire irréprochables avec nous-mêmes, et puis indulgents vis-à-vis des autres. Le malheur, c'est que souvent, nous sommes des personnes qui reprochons aux autres et qui sommes indulgents vis-à-vis de nous-mêmes. Hein? On retourne la chose dans l'autre sens. Mais Dieu veut le contraire, et c'est ce qu'on peut tirer de ce passage. Et donc, Paul va parler de son irréprochabilité. Regardez verset 12, il dit « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Et là, c'est sa première défense, c'est qu'il a le témoignage de sa conscience qui n'est pas celui que certains laissent entendre. Alors, on l'a chargé de beaucoup de choses, mais lui, il est en paix, il n'est pas repris dans sa conscience. Au contraire, il estime s'être conduit dans le monde vis-à-vis de l'extérieur et surtout vis-à-vis des chrétiens avec simplicité et pureté. Alors, je dis simplicité au lieu de sainteté, parce qu'en fait, il s'avère que la plupart des traducteurs ont plutôt préféré traduire par simplicité. Et quand on regarde le terme en grec, eh bien, il semble que c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, simplicité, le terme veut dire simplicité, droiture, générosité, franchise. Et même second, à un autre endroit, a traduit par simplicité le même terme. Donc, c'est une bonne traduction, hein, mais néanmoins, aucune traduction n'est parfaite, hein, et on voit aussi ici une faiblesse. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il met en avant sa franchise, son honnêteté, sa pureté, sa simplicité. Il n'a pas été fourbe, il n'a pas essayé de tromper les Corinthiens, non, il était droit, honnête, et c'est ce qu'il veut dire ici. Il a pris ses décisions non pas avec une sagesse qui était charnelle, mais avec la grâce de Dieu, c'est-à-dire avec l'Esprit de Dieu. Et sa conscience lui en rendait témoignage. Et la conscience, c'est une aide qui est précieuse, quelque chose qui nous garde, hein, un garde-fou qui nous aide à ne pas faire ce qu'on ne doit pas. Et elle est là pour nous éclairer, c'est pour ça qu'elle est vraiment précieuse, mais il faut aussi qu'elle soit sanctifiée par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Il faut toujours qu'elle soit sanctifiée. Quand on prend un Koulibaly, il avait bonne conscience d'aller faire ce qu'il a fait et de tuer des gens. Et même, il pensait que c'était bien vis-à-vis de Dieu. Donc, on voit que la conscience, elle est aussi quelque chose qui peut être transformée, elle est malléable. Et on peut finalement avoir une conscience qui n'est plus en conformité avec ce que Dieu veut. Donc, c'est par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu que notre conscience est gardée. Voilà. Comme il faut, hein, vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça aussi qu'il est important de lire la parole, tout le temps et quotidiennement, parce que Dieu peut redresser si jamais on s'écarte un petit peu. Celui qui ne lit pas la Bible, il ne peut pas dire « tout va bien, Dieu ne me reproche rien ». Ben oui, mais peut-être parce que tu ne lis pas. Hein. Si tu lisais, Dieu te dirait aussi des choses. Donc, lire la parole de Dieu pour garder une bonne conscience éclairée. Et Paul avait cette bonne conscience, que ce soit vis-à-vis du monde ou vis-à-vis des chrétiens. Il n'avait pas agi selon la chair, et notamment en ne venant pas les visiter, comme il l'avait dit à l'origine, hein, mais il s'était aussi reposé sur la grâce de Dieu et sur le Seigneur pour finalement prendre la décision de ne pas venir. Et ça, c'est important. Et donc, première défense, il met en avant, voilà, mais j'ai pas fait une chose contre ma conscience, mais j'ai voulu agir aussi avec Dieu en prenant cette décision. Ensuite, regardez versets 13 et 14. nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Et deuxième défense, Paul dit, mais je ne suis pas un hypocrite. Je n'ai pas été un hypocrite. Et peut-être c'était un point où vraiment on l'attaquait. Oui, oui, il dit qu'il vous aime, mais ce n'est pas vrai. Il dit qu'il passe, il ne passe pas. Donc en fait, voilà, il n'a pas de parole, l'apôtre Paul. Et il dit, non, je n'ai pas été un hypocrite. Ça va dans le même sens de la simplicité avec laquelle il a parlé aux Corinthiens. Paul dit ce qu'il pense et il écrit ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, c'est vraiment ce qu'il pense. Et s'il a dit « J'irai chez vous quand je traverserai la Macédoine », c'est qu'il en avait vraiment l'intention, il avait le vouloir, il le voulait. Il n'y avait pas de duplicité en nous. Et c'est sur ce ton de l'honnêteté, un cœur qui est vrai, qui est ouvert, qui est sincère, qu'il a parlé aux Corinthiens tout au long de sa lettre. On le voit dans cette deuxième lettre. Il dit « Ne nous vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez ». Voilà, je suis transparent devant vous et ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité, pas d'hypocrisie. Dieu parle de l'hypocrisie dans le Nouveau Testament. Il va dire par exemple que l'amour, c'était affiché durant le culte, que l'amour soit sans hypocrisie. Et si Dieu nous dit ça, c'est que l'amour, notre amour, nous chrétiens, peut parfois être hypocrite. C'est un amour de façade, mais dans la réalité, si on regarde bien, en fait, on n'aime pas. On n'aime pas une personne, on n'aime pas un tel ou un tel. Dieu dit que l'amour soit sans hypocrisie, c'est-à-dire sincère, sincéré, sans cire, en faisant référence au marbre que on mettait de la cire pour cacher les fissures qu'il y avait dedans. Voilà, que votre amour soit sans cire, qu'il soit sincère, qu'il soit vrai, qu'il soit honnête. Il faut d'abord discerner dans son amour, enfin dans son cœur, si notre amour est vraiment sans cire. Et puis, si on voit, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, on le confesse et on dit, Seigneur, viens-moi en aide. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes mes frères et sœurs et mon prochain. Paul n'écrivait pas autre chose que ce que le Corinthien pouvait lire. Il les portait sur son cœur et ça, c'était une réalité. Et puis, il va s'expliquer dans les versets suivants, versets 15 à 17. Il dit, « Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non ?» Et troisième défense, c'est que Paul n'est pas inconstant, il n'est pas irréfléchi, ce n'était pas une girouette qui change d'avis, « finalement, je n'y vais pas ». Non, il était constant, Paul tenait sa parole aussi, il tenait ses paroles. Son oui, c'était oui, son non, c'était non. Jésus a dit que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors quand il parle de ça, il fait référence au fait de ne pas jurer. Il dit, ne jurez pas, mais voilà ce que vous dites, faites-le. Et puis sinon, gardez-vous de le dire, ne dites rien. Dieu s'attend à ce que notre parole ait de la valeur et qu'on dise vraiment ce que l'on va tenir. Et Paul dit, je n'étais pas léger quand j'ai dit que j'allais venir vers vous. Et je mesurais pleinement mes paroles. Et si on n'est pas sûr d'une chose, il vaut mieux pas la dire. Et j'avais lu une citation, donc apparemment Savinien de Cyrano, dit de Bergerac, aurait dit « Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire. » Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire. Et en fait, il faut savoir se taire aussi, plutôt que de s'engager et que notre parole aille trop loin et puis c'est trop tard. On s'est engagé. C'est comme les hommes politiques. C'est aujourd'hui, avec Internet et tous les enregistrements, on ne peut plus rien rater. Et on voit les hommes politiques ou les femmes politiques qui disent quelque chose et un mois plus tard, elles disent exact contraire. C'est frappant, hein? Et on peut voir des comparatifs comme ça. Il a dit ça, après il a dit ça. Il a dit ça, et après il a dit ça. Eh bien, Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Dieu veut que, voilà, on s'engage, eh bien, on ait une parole et on la tienne. Avait-il fait preuve d'inconstance? Regardez versets 18 à 20. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et Paul n'avait pas varié, ne variait pas dans tout son enseignement, tout ce qu'il a prêché. Si on regarde la vie de l'apôtre Paul, il y a une constance dans ses paroles et dans tout ce qu'il a affirmé, et ce qu'ont affirmé Silas, et ce qu'a affirmé Timothée, et c'est aussi que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, et Dieu tient sa parole, Dieu a des promesses, il donne des promesses, et elles sont sûres, elles sont solides. Quand on regarde toutes les promesses de Dieu, ce qu'elles représentent pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est un trésor. Elles sont précieuses, parce que ces promesses, elles sont notre nourriture, elles sont notre énergie, hein, notre moteur. C'est ce qui nous stimule, c'est ce qui nous console, c'est ce qui nous aide à nous lever le matin, c'est ce qui nous aide à avancer, à avoir de l'espérance. On a besoin de toutes ces paroles qui sont sûres et solides. Et elles suscitent la foi. Elles suscitent la foi dans nos cœurs. Mais pourquoi? Parce qu'on sait en qui nous croyons. On est sûr de ce que Dieu a dit. On est sûr de lui et que lui, il tient parfaitement parole. On a lu, pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui. Si Dieu dit, eh bien c'est oui. Dieu le fait. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et les promesses de Dieu ne sont pas aléatoires. Il promet quelque chose, oh ben non, finalement j'ai changé d'avis. Non, heureusement, merci Seigneur. Ce qu'il dit, il le fait. Et c'est ce qui nous permet de nous y accrocher, de nous y attacher. C'est comme une ancre, hein, solide. Ça ne bougera pas. Dieu est solide. Alors, eh bien, on peut prononcer l'amen. C'est-à-dire, eh bien, qu'il en soit ainsi. On peut prier une promesse, invoquer une promesse et dire « Amen, c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu va le faire. » J'ai lu qu'un pasteur a suggéré de faire un ABCD des promesses de Dieu. Alors, faire toute une liste de promesses de Dieu que vous apprenez par cœur, un ABCD. Par exemple, A, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 74. B, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. D, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. E, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. F, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. G, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. H, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. I, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. J, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. L, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. M, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. N, ne crains pas, crois seulement. O, ô combien est grande est ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. P, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Q, quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. R, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. S, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. T, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. U, un cœur joyeux est un bon remède. V, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Y, y a-t-il rien qui soit impossible de la part de l'Éternel? Z, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et certainement, quand on est nourri des promesses de Dieu, eh bien, on a aussi le Saint-Esprit qui nous remplit dans sa grâce. Et quand on prend toutes les paroles de Dieu, toutes ces promesses, et qu'on en est vraiment nourri, eh bien, ça nous fortifie, ça nous encourage, ça nous porte, et on en a besoin. Celui qui lit pas sa Bible, eh bien, petit à petit, son cœur se vide de la pensée de Dieu, et puis ben, c'est la pensée du monde qui commence à le remplir. Et là, eh bien, ça ne peut plus aller. Et là, c'est le découragement, c'est l'abattement, et tout peut arriver. Ce que Dieu dit, c'est oui, il est stable, il est constant. Et Paul, lui, n'a pas prêché un Dieu fidèle et constant pour après être inconstant dans sa propre vie. Et ce qu'il dit, c'est que même moi aussi, regardez un peu ma vie, eh bien j'ai été aussi constant dans ma propre vie. Je n'ai pas parlé à la légère. Versets 21 à 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Et pourquoi il fait cette allusion ici d'un seul coup au Saint-Esprit? C'est comme une quatrième défense pour dire, mais moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Voilà, celui qui nous a oint, c'est Dieu. Et Dieu m'a oint, comme il a loin la plupart d'entre vous, et le Saint-Esprit est en moi, comme il est aussi en vous. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. Et donc, Paul n'était pas seul dans les décisions qu'il avait prises, et notamment celle de ne pas finalement aller à Corinthe. Dieu était avec lui, il avait reçu l'onction, et il avait pris cette décision avec le Seigneur, et il voulait aussi le relever ici d'une manière franche, mais en faisant cette allusion au Saint-Esprit. Ça veut dire que nous avons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit veut nous conduire, et voilà, il nous conduit, dans la mesure où nous restons dépendants de Dieu. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit me conduit automatiquement dans toutes mes décisions. Ça, non. Ça, ce n'est pas possible. Malheureusement, à cause du péché, notre nature qui sort sans cesse de la main de Dieu, ce n'est pas toujours vrai. Mais si on reste en lui et si on marche avec lui, alors on ne marche plus selon la chair, on marche selon l'Esprit, et on prend des décisions aussi par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Et son intention, elle était bonne d'aller à Corinthe. Il voulait aller à Corinthe, mais finalement, eh bien, le Saint-Esprit a conduit les choses d'une autre manière. Et puis, il n'y est pas allé. Il a différé sa visite. Et Paul en arrive, finalement, il dit, mais la raison principale pour laquelle je ne suis pas venu vous voir. Versets 23 à 24. Il dit, « Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. » Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Et Paul dit, si je ne suis pas venu, c'est pour vous épargner. Pourquoi? Si on prend un Corinthien, il faut se souvenir d'une parole, il avait dit, que voulez-vous? Que j'aille vers vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Et puis juste après, eh bien, il est question de cette personne qui avait commis un inceste. Et là, il va être très sévère avec elle. Et donc, il y avait cette question de venir avec une verge et puis de reprendre sévèrement les Corinthiens. Et dans son cœur, ça bouillonnait. Il disait, mais c'est pas possible. Il faut qu'il marche droit. Il faut qu'il change. Il faut que ça bouillonnait vraiment en lui. Parce qu'il y avait toutes ces déviations qui étaient introduites dans l'assemblée de Corinthe. Il y avait des sentiments, peut-être une alternance entre de la colère et puis de la tristesse dans le cœur de l'apôtre Paul. Et donc, il semble, il ait voulu faire ce passage, et puis après, il s'est dit non, de peur peut-être d'être trop dur avec les Corinthiens. On connaît aussi le tempérament de l'apôtre Paul. Et plutôt que d'être sévère en venant en parole, lui-même, eh bien, il aurait préféré écrire. Peut-être une lettre sévère. Alors, il fait peut-être référence à cette première lettre aux Corinthiens, que nous avons, cette première épître, qui est quand même sévère à certains égards. Ou il y aurait eu une autre lettre entre les deux, peut-être plus sévère encore, que nous n'avons pas, où là, il les aurait repris. Regardez 2 Corinthiens 2, et on va lire les versets 1 4, il dit « Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi ? J'ai écrit, comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Et donc, c'est ce passage qui laisserait entendre, est-ce qu'il y aurait eu une autre lettre entre les deux lettres, la première et la deuxième épître. Mais peu importe le nombre de lettres que Paul a pu écrire, ce qui est important, c'est le cri de son cœur. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Paul aimait les Corinthiens. Il les aimait profondément. Et s'il n'était pas venu, c'était par amour qu'il n'était pas venu. Il avait pris cette décision parce qu'il les aimait. Il préférait ne pas venir tant il était attristé par leur attitude, par leur comportement, par leur jugement, et puis aussi par cette hostilité naissante qui était en train de croître dans l'assemblée de Corinthe. Et Paul a posé le pour et le contre, et finalement il a décidé, non, je vais écrire une lettre. Je vais plutôt leur écrire. Dans la première lettre, il dit, « Quelques-uns sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. » Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Donc on voit, Paul était prêt à aller rencontrer les Corinthiens, et puis voilà, dire les choses, taper un peu du poing sur la table, mais il a préféré ne pas y aller. Il a dit non, je vais leur écrire. Et c'est tout à son honneur, cette attitude. Quand on a un caractère de feu, comme l'apôtre Paul, c'est facile de tout régler avec quelques paroles et pa-pa-pa-pa-pa, et hop, tape. Mais c'est touchant de voir justement que Paul, avec toute cette fougue humaine qu'il animait, et ce zèle pour Dieu, pour son œuvre, il sait aussi se maîtriser. Et il dit non, je vais leur écrire. Regardez le verset 4 du chapitre 2. Il dit, c'est dans une grande affliction et le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Et ça, c'est l'état du cœur de Paul, alors qu'il est en train d'écrire, il est en train de les reprendre, il pleure sur cette lettre, elle est humide de ses larmes, il cherche ses mots, et vraiment il veut peser chacune de ses paroles. Donc, il a cherché le bien de ses frères. C'est pour ça qu'il n'était pas venu. Alors, eh bien, il était irréprochable. Je résume courtement, il était irréprochable parce qu'il avait une bonne conscience, il avait fait cela devant Dieu, parce qu'il était sincère, ce n'était pas un hypocrite, parce que c'était un homme constant, un homme de parole, et d'habitude, eh bien, quand il disait une chose, il le faisait, mais là, eh bien, il est arrivé quelque chose qui a fait qu'il y avait une décision à prendre. Et puis parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui était là pour le conduire, et puis par le fait qu'il recherchait le bien de ses frères et sœurs. Alors qu'est-ce qu'il demandait ? En fait, en écrivant ça, il dit, mais faites preuve un peu de compréhension à mon égard. Soyez un peu indulgent. Pourquoi être si sévère à me juger sur le fait que je n'étais pas venu alors que j'avais dit que j'allais venir ? Et comme je le disais en introduction, c'est un fait qui est triste, c'est que très souvent, l'homme est prompt à reprocher quelque chose à son prochain ou à son frère, mais quand il s'agit de soi, ben, il est un peu plus indulgent avec lui-même. Mais Dieu veut qu'on fasse le contraire. Il veut qu'on soit irréprochable vis-à-vis de soi-même et que nous, eh bien, nous nous jugions nous-mêmes, et Dieu est là pour nous juger et par le Saint-Esprit, et que nous, eh bien, on fasse preuve d'indulgence aussi vis-à-vis de nos frères et sœurs, ou de notre prochain. Et ce qu'on voit ici, c'est que les Corinthiens, ils n'avaient pas toutes les clés du problème. Alors, ils se basaient sur une vision partielle et une vision de l'apôtre Paul qui n'était pas vraie. Et alors, du coup, voilà, certains s'étaient mis à le juger. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on soit patient, indulgent. On voit que l'indulgence, c'est un des termes qui est donné parmi les qualités qui sont demandées à un ancien, à un responsable dans une assemblée, donc c'est dans 1 Timothée 3. Mais on retrouve le terme aussi ailleurs. On connaît ce verset qui dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». En fait, le mot « douceur », ici, peut être traduit par « indulgence », « que votre indulgence ». Quand on lit la définition, ce mot, c'est « d'une juste mesure », « indulgent », « bon ». Et cet aspect de la douceur, et dans l'indulgence, il y a de la douceur. On pourrait aussi le traduire donc « que votre indulgence », « que votre bonté soit connue de tous les hommes ». Quand vous lisez les évangiles, vous voyez des juifs religieux qui étaient durs, intraitables. Hein. Ils chargeaient avec un joug, mais ils ne portaient pas même de leurs doigts, hein, dit le Seigneur. Et c'est touchant quand on regarde la vie de Jésus dans les évangiles et on voit combien Jésus, lui, était plein d'indulgence, plein de douceur vis-à-vis d'une prostituée, vis-à-vis d'une femme adultère, vis-à-vis de pêcheurs qui venaient manger à sa table, de disciples qui prenaient des grains de blé dans un champ. Il était plein de grâce, plein de douceur. Mais par contre, vis-à-vis de ceux qui justement manquaient d'indulgence, c'est-à-dire ces juifs religieux qui eux jugeaient, qui étaient durs et qui tapaient sur tout le monde, mais qui ne faisaient pas, alors là le Seigneur était dur. Avec ceux-là, oh là là, là il était dur. Et c'est un bel exemple pour nous, hein, apprendre à être plein d'indulgence pour les autres, mais aussi à être irréprochable pour soi-même. On peut être un peu dur avec soi-même, hein. C'est recommandé hein, de ne pas se laisser passer quelque chose, dire non, il ne faut pas. Mais pour les autres, eh bien, soyons patients, soyons pleins de grâce, prions pour nos frères et sœurs.